Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Le nouveau patron de la MONUSCO, James Swan, est arrivé ce mardi 7 avril 2026 à Kinshasa via l'aéroport international d'Ndjili. Lors de sa première interview accordée à la presse, le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO a appelé les Congolais à la solidarité. J'arrive avec un message de solidarité à l'endroit du peuple congolais, alors que la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC demeure profondément préoccupante et que les civils continuent de payer les plus lourds tributs, a déclaré James Swan. Il affirme placer sa priorité sur la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO, qui consiste notamment à la protection civile, à l'appui à la désescalade et à la création des conditions propices à une paix durable. Le diplomate a assuré que les Nations Unis se tiennent aux côtés du peuple congolais et des institutions de la République dans le plein respect de la souveraineté nationale. Selon James Swan, il n'existait pas de solution uniquement militaire à la crise persistante dans l'est du pays. Quelles sont les attentes de la classe politique et de toutes les forces vives de la nation après l'arrivée du nouveau chef de la MONUSCO en RDC? Et quelle est la place de la MONUSCO dans la pacification et la stabilité de la RDC? C'est à ces deux questions que nous allons tenter de répondre ce soir. Et nous recevons ici au studio Caroline Zanzou Kasivita. Il est député national élu des Beni Territoires. Il est vice-président de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Il est également gouverneur honoraire de la province du Nord Kivu et cadre de l'Union Sacrée de la Nation. Bonsoir, honorable Caroline Zanzou Kasivita.
Bonsoir Guy Mathé, bonsoir aux auditeurs de la Radio Capi, mais aussi à notre co-débatteur, l'honorable Kasekwa.
Jean-Baptiste Kasekwa, effectivement, il est aussi dans ce studio avec nous. Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, il est député national honoraire, il est premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement SID, parti membre de la coalition Lamuka, il est également notable de la province du Nord Kivu. Bonsoir honorable Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa.
Bonsoir Guy, bonsoir à l'honorable Carly, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi.
Et en ligne, Frédéric Amani, il est chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi. Il est expert en questions de sécurité, défense et de maintien de la paix de l'Institut Thales d'Afrique basé à Dakar au Sénégal. Bonsoir Frédéric Amani.
Bonsoir Monsieur Guy, bonsoir aux co-débatteurs ainsi qu'aux auditeurs de Radio Capi.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit, le nouveau chef de la MONUSCO est à Kinshasa depuis hier mardi soir. James Swan est arrivé par l'aéroport international d'Ndjili. Il est venu prendre officiellement ses fonctions comme représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC. À sa descente d'avion, James Swan s'est dit très préoccupé par la situation d'insécurité et humanitaire alarmante à l'est de la RDC. Avec son arrivée, a-t-il dit, il va militer pour le respect de la souveraineté de la RDC avec ses institutions et travailler pour la désescalade des tensions au pays en mettant un accent sur le dialogue. James Swan l'a dit au micro d'Askin Zigbia Tayoro.
Je suis honoré d'arriver en République démocratique du Congo pour assumer mes fonctions de représentant spécial, de secrétaire général et chef de la MONUSCO, à un moment particulièrement important pour le pays et pour la région. J'arrive avec un message de solidarité à l'endroit du peuple congolais, alors que la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC demeure profondément préoccupante et que les civils continuent de payer le plus lourd tribut. Ma priorité est de veiller à ce que la MONUSCO mette pleinement en œuvre le mandat qui lui a confié le Conseil de sécurité, avec un accent clair sur la protection des civils, l'appui à la désescalade et la création de conditions propices à une paix durable. Les Nations Unies se tiennent aux côtés du peuple congolais et des institutions de la République démocratique du Congo, dans le plein respect de la souveraineté du pays. Il n'existe pas de solution uniquement militaire à la crise actuelle. Les progrès nécessiteront le dialogue, l'engagement régional et la mise en œuvre des engagements déjà pris. La protection des civils restera au cœur de l'action de la MONUSCO. Mon expérience antérieure en RDC m'a donné un profond respect pour ce pays, pour son peuple, ainsi que pour l'importance d'une collaboration étroite avec les autorités nationales et les communautés. J'arrive à Kinshasa avec humilité et détermination, pleinement engagé à soutenir le peuple congolais et à faire avancer les efforts nécessaires en faveur de la désescalade et d'une paix durable.
Nous rappelons que c'est le 5 mars dernier que James Swan a été nommé comme représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO. Il succède ainsi à Madame Bintou Keïta. Notez que le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, James Swan, est entré en fonction ce mardi 7 avril 2026 dans un contexte de crise sécuritaire persistante dans l'est de la RDC. Votée par le Conseil de sécurité en décembre 2025, la résolution 2808 prolonge le mandat de la MONUSCO jusqu'au 20 décembre 2026 et redéfinit ses priorités et ses tâches. Martial Papimukeba nous rappelle ici les grandes lignes de ce nouveau mandat.
Contrairement au mandat précédent, la résolution 2808 prend acte d'une pause dans le désengagement de la mission en raison de l'évolution de la situation sécuritaire, notamment au Sud Kivu. Elle intègre des nouveaux cadres diplomatiques, comme l'accord de paix de Washington signé entre la RDC et le Rwanda en juin 2025 et les cadres de paix de Doha conclus en novembre 2025. La résolution autorise la MONUSCO à soutenir un cessez-le-feu permanent via un mécanisme de suivi de vérification. Elle exprime son inquiétude face à l'utilisation des technologies sophistiquées par les groupes armés tels que les missiles sol-air et les drones suicides. Elle lutte contre l'impunité, protège les enfants et renforce la justice ainsi que la surveillance des violences sexuelles. La MONUSCO est également autorisée à mener des opérations offensives ciblées à travers sa brigade d'intervention, la FIB, pour neutraliser les groupes armés. La résolution condamne fermement l'offensive de la FCM-23 exige les retraits des forces rwandaises RDF et demande à la MONUSCO de surveiller l'embargo sur les armes et les brouillages GPS. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Merci à vous, Martial Papimukeba. Karline Zanzu Kasivita, député national élu de Beni Territoire, vous êtes vice-président de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Vous êtes également gouverneur honoraire de la province du Nord Kivu et cadre de l'Union Sacrée de la Nation. Le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC est entré en fonction depuis ce mardi. Quelles pourraient être les attentes de la classe politique et surtout de la majorité au pouvoir par rapport à son mandat?
Je voudrais d'abord saluer son engagement. Je viens de suivre son discours, je l'ai suivi aussi. Il a reconnu que la population congolaise, surtout de l'Est, continue à payer les lourds tributs des atrocités de différentes guerres, que ce soit la guerre de l'agression rwandaise, mais aussi les groupes armés et les ADF spécifiquement dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Il est vrai aussi que James a une expérience diplomatique qui va lui permettre de travailler dans un contexte de conflit comme celui de la RDC. Il a d'ailleurs été ici. À ce titre, je crois qu'il connaît bien l'environnement politique de la RDC, il connaît le contexte de la guerre dans notre pays, et il a bien souligné que la résolution 2808 a donné un nouveau mandat, je dirais un nouveau mandat robuste à la MONUSCO, parce qu'il faut quand même avouer qu'à un moment donné, des événements de la guerre au Nord Kivu, que ce soit en Ituri, la MONUSCO avait perdu confiance auprès de la population suite à certains événements. D'abord, il faut rappeler la communication à un moment donné lors de la traque des ADF Nalu, quand la MONUSCO avait dit que ce n'était pas nécessaire d'utiliser les armes lourdes parce que les ADF sont accompagnés par des femmes et des enfants.
Des personnes vulnérables.
Et des personnes vulnérables. Et certes, c'est compréhensible sur le plan humanitaire, mais la population victime dans les territoires de Beni, dans les territoires de Irumu, dans les territoires de Mambasa, ne peuvent pas comprendre qu'effectivement, on doit regarder les ADF sur qu'il est sans pour autant utiliser les moyens proportionnels pour les neutraliser. Ce message n'avait pas été bien perçu dans l'opinion congolaise, même ce qui avait été dit par le secrétaire général en rapport avec l'F-23, parce qu'aujourd'hui, même hier, la population congolaise ne peut pas concevoir qu'avec le budget robuste que la Monusco a, qu'elle puisse être en difficulté de pouvoir faire face à la technologie du gouvernement rwandais lors des affrontements au Nord Kivu. Et donc, je pense que le nouveau secrétaire général a non seulement cette responsabilité, le nouveau représentant de la Monusco a non seulement cette responsabilité politique de relever la confiance de la Monusco auprès de la population congolaise, surtout à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi soutenir les processus engagés, que ce soit les processus de Washington et les processus de Doha. Parce qu'en fait, il faut que la Monusco soit à même de surveiller les cessez-le-feu et d'imposer effectivement des lignes infranchissables. Mais comment la Monusco va le faire si elle n'a pas de troupes au sud Kivu, à Uvira, si elle n'a pas de troupes partout? Et je crois qu'avec l'expérience du nouveau chef de la Monusco, peut-être avec aussi les relations qu'il a avec les pays donateurs qui financent la Monusco, ils viennent des États-Unis, nous le savons, nous ne pouvons pas les cacher. C'est souvent ces pays qui financent les conseils de sécurité. Je pense, la Monusco spécialement, je pense qu'il pourra saisir cette donne pour permettre que la Monusco ait plus de moyens matériels, humains. D'abord, les militaires sont là. Je crois que vous avez à peu près 11 500. Je suppose que c'est suffisant, mais il faut renforcer la FIB. Mais il faut aussi avoir les moyens technologiques, parce que j'ai bien suivi ici que vous aviez relevé que vous n'étiez pas en mesure, évidemment, de faire face aux nouveaux moyens technologiques que les groupes armés utilisent, tels que les drones et les missiles.
Voilà, il a affirmé placer sa priorité sur la mise en œuvre du mandat de la Monusco, qui consiste notamment à la protection civile, à l'appui à la désescalade et à la création des conditions propices à une paix durable. D'abord, la protection des civils, hein, c'est volet du mandat de la Monusco qui a toujours été apprécié diversement. Honorable Kalinza Zukasi Vita, qu'attendez-vous de la part de James Swan par rapport à l'accomplissement du mandat de la Monusco dans son volet protection des civils?
Il faut avouer que effectivement ce concept crée plus de confusion dans la compréhension des victimes, mais je suis tout à fait d'accord que la Monusco joue un rôle important, surtout pour sécuriser les humanitaires, pour faciliter les actions humanitaires dans plusieurs régions de notre pays. Je suis aussi d'avis que dans certaines conditions, la population congolaise peut trouver refuge, peut être protégée par les casques bleus de la Monusco. Mais il faut avouer que les escalades, que ce soit en Ituri, que ce soit en Nord Kivu, que ce soit dans d'autres provinces telles que le Sud Kivu, ces escalades sont quand même assez trop récurrentes, au point que le mandat de la Monusco, le mandat naturellement de la Monusco, ne permet pas à la Monusco de pouvoir interagir comme nous le souhaiterions, nous, victimes de cette guerre. C'est pourquoi nous souhaiterions effectivement que des structures assez robustes comme l'FIB puissent être renforcées pour nous permettre non seulement d'accompagner les FARDC dans la traque des ANDEF, mais aussi être en mesure de surveiller et d'imposer un cessez-le-feu. Parce qu'il ne va pas être facile de déjouer au désescalade si la Monusco n'est pas en mesure d'imposer ne serait-ce que le respect du cessez-le-feu. C'est à ce niveau que je pense que sa personnalité et son expérience peuvent aider la Monusco à trouver des moyens supplémentaires, peut-être ils en ont, soit réactiver des moyens qui existent pour qu'effectivement la population congolaise puisse comprendre que ce rôle est en train d'être joué pleinement, parce qu'en imposant les cessez-le-feu, c'est aussi protéger les civils, parce qu'on épargne l'escalade militaire, et quand il y a la guerre, c'est la population qui est toujours victime en premier lieu.
Voilà, il a également affirmé qu'il n'existe pas de solution uniquement militaire à la crise persistante dans l'est du pays. Comment vous interprétez ce message?
C'est pas nouveau, le président de la République l'a toujours dit, moi-même je l'ai mille fois dit ici, devant les antennes de votre radio, que les solutions sont tripartites. Le chef l'a toujours dit, il a toujours évoqué la dimension militaire, la dimension diplomatique et la dimension politique. Et je crois qu'à ce stade, tout diplomate, tout observateur de la crise congolaise ne peut pas se tromper sur les indicateurs. Et à ce niveau, je crois que le nouveau représentant de la MONUSCO a fait une très bonne lecture. C'est à ce niveau que nous l'attendons, parce que la résolution 28-08 s'inscrit déjà dans l'approche diplomatique et politique. Et donc, à ce niveau-là, je crois que nous attendons plus de la MONUSCO pour que les cessez-le-feu du côté Ouvira soit respecté et voir la MONUSCO s'engager plus davantage sur d'autres questions de la protection des civils au Nord Kivu et en Ituri.
Merci Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, vous êtes député national honoraire, vous êtes premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement SID, parti membre de la coalition Lamouka, vous êtes également notable de la province du Nord Kivu. C'est quoi les attentes de la classe politique en général et de l'opposition, n'est-ce pas, par rapport au mandat du nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC?
Le président Martin Fayulu a salué chaleureusement la nomination de James Swam comme nouveau chef de la MONUSCO. Nos attentes sont fortes, mais en même temps assez modérées. D'abord, nous attendons du nouveau chef de la MONUSCO une démarcation dans la question de la protection des civils par rapport à ses prédécesseurs. Jusqu'à ce jour, la question de la protection des populations civiles est devenue comme un slogan. Et c'est là parce que, à plusieurs reprises, les représentants du secrétaire général des Nations Unies dans notre pays ont choisi d'entretenir, de privilégier l'entretien des relations amical, soit avec le gouvernement, ou des relations pas tendues avec ceux qui occupent des zones, au lieu de tenir un ton ferme en faveur de la protection des droits de l'homme, de la protection des populations civiles. Parce que dans notre pays, la protection des populations civiles va très mal dans toutes les zones. Dans les zones sous contrôle du gouvernement, à qui ça s'amène, vous avez ici des personnes qui sont détenues dans des cachots non accessibles, même par le procureur, détenues pendant une année, deux ans, des cachots non accessibles, même par la MONUSCO, des personnes détenues au secret au nom de la sécurité de l'État, pas d'accès par leurs familles, pas de visites, pas d'accès par leurs avocats. Et s'il en est ainsi déjà à Kinshasa, qu'en est-il dans des provinces, et particulièrement dans des provinces sous le fameux état de siège depuis 4 ans? Et donc, de ce côté-là, le nouveau chef de la MONUSCO doit être regardant. Va-t-il chercher à s'accommoder, entretenir de bonnes relations avec le pouvoir et garder le silence pendant que les gens sont détenus dans des cachots secrets pendant si longtemps? Ou va-t-il hausser le ton? Comme l'OET, certains rares qui se sont distingués, je voudrais rappeler ici les souvenirs très très nobles que nous avons par exemple de Martine Kobler. Dans les zones sous occupation de la FCM-23, c'est la catastrophe. Et ici, le nouveau chef de la MONUSCO devrait mettre l'accent sur faciliter aux acteurs locaux de la protection des droits de l'homme, notamment les défenseurs des droits de l'homme, les acteurs de la société civile, qui sont mis en difficulté dans les zones sous occupation du M23, à Goma, nombreux sont dans les bases de la MONUSCO, nombreux ont fui. L'M23 dit, il n'y a pas de société civile dans les zones sous son occupation.
Comment le nouveau chef de la MONUSCO va-t-il assurer son mandat de la protection des droits de l'homme si il ne plaide pas pour que ces leaders locaux de la protection des droits de l'homme recouvrent la liberté d'exercice de leur fonction, de leurs activités, même dans les zones sous occupation? Il en est de même des acteurs de la société civile internationale. Dans les zones sous contrôle de Ouazalendo, c'est pareil, c'est la catastrophe. Dans les zones sous ADEF, ce sont des massacres au quotidien. Et pour ceci, il faut donc que le nouveau chef de la MONUSCO fasse un tableau clair et qu'il définisse un plan qui lui permette de se démarquer de ses prédécesseurs. Nous pensons qu'il en a les atouts, il a l'expérience suffisante et il peut disposer du soutien de beaucoup de partenaires au Conseil de sécurité. En deuxième lieu, nous attendons de lui l'effectivité du cessez-le-feu. Et à ce titre, pour Lamouka et les CID et pour Martin Fayoulou, les chefs de la MONUSCO devraient nous aider à ce que Doha se limite uniquement au mécanisme de mise en œuvre du cessez-le-feu. Et que, troisième attente, l'on aille droit vers un dialogue inclusif. Parce que lorsque nous allons les rencontrer, nous allons lui démontrer qu'il est exclu que les fameux 6 protocoles de Doha apportent la paix. Lorsque, par exemple, parmi les causes profondes de la persistance de la crise dans notre pays, à Doha, l'on n'est pas possible, on n'est pas en mesure de parler de l'impunité des acteurs des violences depuis 1996 jusqu'à ce jour, nous ne pouvons pas attendre que les deux belligérants à Doha mettent en place des mécanismes qui vont sanctionner les mêmes acteurs qui sont sur la table des négociations à Doha et qui, fort de l'impunité, s'évertuent à relancer des rébellions en rébellion. Il y a également la question de l'absence de l'inclusivité. Comment à Doha on va parler de la réconciliation? On va parler de la gouvernance participative nationale à l'absence de toutes les forces vives de la nation? On va parler de la cohésion de la communauté nationale telle que cela est dit dans le fameux accord cadre de Doha du 15 novembre. Pratiquement, ce sont les mêmes termes que Martin Fayoulou a dit, que pour nous, un dialogue national inclusif sous le thème vérité, c'est-à-dire on se dit les causes profondes, réconciliation, on se demande mutuellement pardon, mais sans exclure le mécanisme de justice, et puis on résout de la cohésion nationale. Nous pensons que si le nouveau chef de la MONUSCO s'engage sur ce terrain-là, rapidement, il peut aider la RDC à recouvrer le chemin d'une paix durable et amener les acteurs de la société civile, de la classe politique, comme de l'ensemble de la population, à retrouver un minimum de confiance vis-à-vis de la MONUSCO, confiance qui s'est érodée, disais-je, parce que depuis les années 99 jusqu'à ce jour, la protection des civils est restée un slogan. On a massacré les gens sous l'Orakunda, Bukavu, Angouba, sous la barbe des forces de la MONUSCO, Arutshuru, Kiwanja, les FDLR depuis 2013 à ce jour. Mais cela ne veut pas dire que la MONUSCO n'a pas fait de bonnes choses. Grâce à la MONUSCO, le pays a été réunifié et aujourd'hui, si la MONUSCO nous abandonne, nous aurons du mal à réunifier le territoire national. Grâce à la MONUSCO, nous avons eu la victoire en 2013 contre l'M23. Et malheureusement, les dirigeants de la RDC ont transformé la victoire en une défaite. Et raison pour laquelle aujourd'hui, James ne devrait pas se tromper d'ancle. Les opérations, les interventions militaires dans le contexte de notre pays sont utiles et dès la neutralisation des groupes armés, mais James devrait privilégier l'axe politique, c'est-à-dire la tenue d'un dialogue inclusif national.
Justement, il a affirmé qu'il n'existait pas de solution uniquement militaire à la crise persistante dans l'est du pays, en précisant que les progrès nécessitent notamment les dialogues. Mais est-ce que vous pensez qu'il sera écouté par les acteurs politiques de la RDC?
Alors, le nouveau chef devrait user de ses beaux offices pour parler aux différents acteurs, à Kinshasa, à Goma, et différents acteurs à tous les niveaux, pour leur faire comprendre les bien fondés d'une solution de négocier et de la protection des populations civiles. Mais également, James devrait faire le relais, le plaidoyer auprès de ceux-là qui lui ont donné le mandat, pour qu'à leur niveau, des leviers politiques, des leviers diplomatiques soient exercés vis-à-vis de tous les acteurs. Que ce soit à Kinshasa, vous suivez les slogans à Kinshasa. Alors que ce sont eux qui ont demandé que le programme de désengagement de la MONUSCO soit arrêté. Pour que les Nations Unies nous aident à sortir de cette période de crise grave. Mais la priorité devient changement de la Constitution. On veut diviser davantage la nation. Et donc, mais pareil à Goma, la priorité, vous suivez ce qui se passe, c'est garder le contrôle de ces zones le plus longtemps possible. La jeune Afrique, Paul Kagame, a clairement dit qu'il est satisfait du statu quo. Et donc, le nouveau chef de la MONUSCO, non seulement devrait user de bons offices auprès des acteurs, mais également auprès de ceux-là qui lui ont donné le mandat, pour que des leviers diplomatiques soient davantage renforcés, tels que les sanctions et autres, et que tous les acteurs abandonnent l'arrogance de ces complètes statu quo et aller vers un processus inclusif rapide qui nous permette d'avoir des institutions politiques responsables qui vont mettre à place des réformes appropriées pour revenir dans une situation d'un état normal au lieu d'un état failli tel que nous nous y retrouvons aujourd'hui.
Merci Jean-Baptiste Mouindou Kasekwa. Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi, aussi expert en questions de sécurité, défense et de maintien de la paix de l'Institut Thales d'Afrique basé à Dakar au Sénégal. Pour vous, quelles pourraient être les attentes de la classe politique et de toutes les forces vives, n'est-ce pas, de la nation après l'arrivée du nouveau chef de la MONUSCO en RDC?
Et je crois que le nouveau patron de la MONUSCO a un grand travail, un grand rôle à jouer pour, n'est-ce pas, contribuer à la consolidation ou, si vous voulez bien, à la reconstruction de cette nation par la mise en place d'un cadre de dialogue, d'abord entre la MONUSCO et les gouvernements d'un côté, mais aussi, surtout, entre les dirigeants et les gouvernants, c'est-à-dire entre les gouvernements et la population. Je fais allusion ici à la classe politique, aux organisations de la société civile. Il va, n'est-ce pas, travailler dans ce sens-là pour consolider cet élan, parce que il faut avoir le courage de reconnaître que depuis un temps, les acteurs politiques au niveau du pays ne se font plus confiance, et la population, une frange de la population, du moins, n'a plus confiance à ses dirigeants, eh bien, cette rupture, si je peux le dire ainsi, du contrat entre les gouvernants et les gouvernés, cause un malaise qu'il faut régler le plus vite possible. Et je pense aussi que le nouveau chef de la MONUSCO devrait mettre en place un cadre qui va définir, n'est-ce pas, une cohérence entre les missions qu'il a et aussi les actions qui doivent être posées sur le terrain. Parce qu'une chose est d'avoir une mission, que ce soit lui en tant que chef de la mission ou au regard de la résolution 2808, mais une autre est de faire en sorte que les actions posées sur le terrain soient en adéquation avec la mission qu'on a. Et je crois que cela permettra à ce qu'un climat de confiance revienne d'abord, parce que depuis un temps, il y a eu une méfiance de la population par rapport aux actions de la MONUSCO. Voilà pourquoi depuis 2021-2022, il y a eu cette révolte d'une frange de la population qui souhaitait le départ de la MONUSCO. Mais je suis heureux que le mandat de la MONUSCO soit renouvelé et d'autres missions soient ajoutées à celles qui existaient. Mais il faudrait alors une cohérence et aussi des actions palpables sur le terrain pour que la confiance revienne et que la classe politique puisse se retrouver autour d'une table. Parce que ça ne sert à rien de continuer à se regarder en chien de faïence d'abord entre Congolais eux-mêmes et que la maison est en train de périr, n'est-ce pas? Parce que l'ennemi profite de cette division entre Congolais pour continuer, n'est-ce pas, à avancer. Alors que lorsque la maison est unie ou lorsque dans la maison il y a cette unité et cette cohésion, eh ben, l'ennemi aura du mal à percer et à avancer.
Voilà. Vous ne pensez pas que cette problématique relative à la protection des civils devrait être perçue de la même manière par toutes les parties prenantes afin qu'elle ne suscite plus des polémiques, afin que, comme vous venez de le dire, qu'il y ait cohérence entre les missions et les actes posés sur le terrain?
Bon, c'est vrai, je crois que chaque partie, et lorsque je parle de partie ici, je fais allusion. J'entends quatre parties. Il y a la partie gouvernementale, il y a la partie opposition, il y a la partie civile, mais aussi il y a la partie, passez-moi l'expression, la partie rébellion. Alors, chaque partie a sa conception de la protection des civils, mais moi je pense que la conception unanime ici, c'est de faire en sorte que le droit de l'homme soit respecté et par l'opposition et par les gouvernements, et par la rébellion, qui n'est pas des poids, des mesures. C'est-à-dire, lorsqu'on est en face du gouvernement, le gouvernement doit, n'est-ce pas, respecter le respect des droits de l'homme comme on doit l'exiger à l'opposition, comme la rébellion AFC 123 à l'Est doit aussi le faire. Et cela va permettre à ce que, qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, un double standard lorsqu'il s'agit de la protection des civils, que ce soit pour le gouvernement ou pour l'opposition. Voilà pourquoi, peut-être je voudrais terminer par là et aller vite en besogne, pour souhaiter que le nouveau patron fasse déjà, si vous voulez bien, un tour, surtout dans la partie Est, pour déjà parler avec la rébellion, mais aussi avec le gouvernement, n'est-ce pas, de son agenda ou de son cahier des charges par rapport à la mission lui confiée par les Nations Unies, pour que cette protection des civils soit véritablement réelle sur le terrain. Il est vrai que on parle de la protection des civils, mais sur le terrain, il y a les ADEFNAL où il y a, n'est-ce pas, les milices qui continuent à semer la terreur dans différents coins du pays, et cela, n'est-ce pas, reste à désirer. Nous pensons que le nouveau patron de la MONUSCO va vraiment focaliser ses efforts et les efforts de la MONUSCO sur la protection des civils et du côté gouvernement et du côté de la rébellion pour que la paix et la sécurité reviennent le plus tôt par, n'est-ce pas, son expérience, que ce soit en tant que diplomate ou en tant que haut fonctionnaire des Nations Unies.
Merci. Nous allons maintenant donner la parole aux auditeurs qui sont très appelés pour donner leur point de vue par rapport à ces sujets. Honorable Karline Zanzoukasevita, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis Mahagi en Ituri, c'est Pierre Moussafiri.
Pierre Moussafiri depuis Mahagi en Ituri. Le nouveau patron de la MONUSCO arrive à un moment où la situation sécuritaire est particulièrement critique. Cela signifie qu'un immense travail l'attend. Toutefois, cette mission n'est pas impossible au regard de son expérience diplomatique dans la gestion des conflits. Il prend ses fonctions dans un contexte marqué à la fois par le processus de retrait progressif de la MONUSCO et le renouvellement de son mandat. Les résultats de son premier semestre seront donc déterminants. Ils permettront de savoir s'il va accélérer ce retrait ou au contraire obtenir un nouveau mandat afin de poursuivre l'appui au gouvernement congolais. Parmi les défis majeurs qui l'attendent, on peut citer le respect du cessez-le-feu entre l'AFC M23 et le gouvernement de Kinshasa, la protection des civils dans les zones de conflit, mais aussi la restauration de la confiance entre la MONUSCO et la population. Cette dernière En effet, exprime un profond scepticisme face aux résultats obtenus jusqu'ici, notamment dans la lutte contre les ADF et d'autres groupes armés.
Honorable Kalis Zanzuka Sivita.
Merci, je voudrais saluer la lecture de notre compatriote de Mahagi, M. Pierre. Il est vrai que la situation dans laquelle nous sommes, la RDC surtout, c'est une situation assez complexe. Il est vrai que la MONUSCO ne pourra pas faire ce que la République démocratique du Congo devrait faire en Ituri et au Nord-Kivu. Mais ce que j'ai souligné la possibilité pour les nouveaux chefs de pouvoir réactiver la machine MONUSCO. J'ai souhaité, moi personnellement, que, à dépit de toutes les contraintes possibles que la MONUSCO peut avoir, il faut qu'on réactive la FIB. Pourquoi j'insiste sur la question de la FIB? Parce qu'aujourd'hui, en regardant les tableaux sécuritaires de la province de l'Ituri, du Nord Kivu, même du Sud Kivu, les contingents normaux de la MONUSCO sont importants, certes, pour la mission de la MONUSCO, mais nous souhaiterions avoir des unités assez compatibles. Et nous pensons que s'il y a la FIB, on peut effectivement jouer des rôles de dissuasion, même d'attaque. De
la FIB qui avait contribué, n'est-ce pas, à la défaite des
M23. On peut continuer à appuyer les attaques des FARDC en Ituri contre les milices CODECO, contre les ADEF, mais aussi s'assurer effectivement que le respect du cessez-le-feu va être effectif, mais aussi arriver évidemment à parce que l'objectif pour nous est des Congolais, il faut que les troupes rwandaises puissent rentrer dans leur pays, il faut que les supplétifs de troupes rwandaises qui sont à Goma puissent aussi accepter la reddition, réunifier notre pays. C'est tout ce que nous attendons de la MONUSCO. Il est vrai que la République démocratique du Congo avait engagé des discussions sur le retrait de casque blé et on avait déjà commencé ces processus à Bukavu. C'est pourquoi j'ai souhaité qu'il y ait un redéploiement à Bukavu. Donc, c'est un peu contradictoire pour nous aujourd'hui de pouvoir soutenir la résolution 2808 qui souhaiterait qu'il y ait la MONUSCO à Ituri et demander en même temps le retrait. Et donc, nous devrions encourager les nouveaux chefs de la MONUSCO à pouvoir travailler pour que, sur le plan diplomatique, pour que tous les contribuables au niveau des Nations Unies puissent renforcer la capacité opérationnelle de la MONUSCO et ainsi permettre à ce que cette MONUSCO puisse accompagner la République démocratique du Congo dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État. Moi, personnellement, au stade actuel, je souhaite même que la MONUSCO soit associée pleinement dans les opérations contre les FDLR. Nous avons ce prétexte rwandais dans nos pieds. Ça a toujours été l'aîné de problèmes entre nous et les Rwandais sur le plan diplomatique. Mais sur le plan militaire, les raisons sont autres et les politiques. À ce niveau, si la MONUSCO est associée à la traque des FDLR, je crois qu'on va terminer ce prétexte une fois pour toutes et ainsi garantir l'avènement de la paix durable à l'est de la République démocratique du Congo.
Merci Jean-Baptiste Kassekwa. Mouindo, vous allez réagir à la réflexion de l'autre auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa, c'est Patricien Landry Louchikou.
Patricien Landry Louchikou depuis la ville de Kinshasa. Je salue l'arrivée du nouveau représentant du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO pour la pérennisation des acquis de la mission onusienne au Congo, surtout que ces derniers connaissent bien les contours de la situation congolaise. Les ententes sont nombreuses, surtout la décrispation du climat politique qui est tendue actuellement entre les pouvoirs et l'opposition, l'intervention dans la stabilisation de la partie orientale en poursuivant la résolution du Conseil de sécurité qui voudrait voir la situation de la population civile améliorée. Et cette mission onusienne au Congo a une place de pondérante à la stabilisation et la pacification, surtout que l'intervention de cette mission dans certaines régions du pays a donné des résultats escomptés. Je mets le fait de voir la MONUSCO rentrer dans les parties où elle s'est retirée pour la pérennisation de son action parce que le gouvernement a échoué.
Jean-Baptiste Mouine de Kassikwa.
Bien, en même temps qu'il est nécessaire que la présence de la MONUSCO soit assurée dans plusieurs zones où elle s'était déjà désengagée, et particulièrement au sud Kivu, mais nous devons être conscients du contexte international actuel où les budgets aux missions de maintien de la paix sont réduits. Nous espérons que les liens entre les nouveaux chefs de la MONUSCO et les États-Unis vont permettre à ces derniers pays de se réengager au financement de la mission. Néanmoins, mon point de vue, c'est que la priorité soit accordée à l'axe politique. Luchiko a bien parlé de la décrispation du climat politique. Je rappelle ici que sous William Swing, après Sun City, grâce au changement de la donne politique intérieure en RDC, avec notamment la fin du dialogue national inclusif à Sun City et la pression de la communauté internationale, nous avons obtenu le retrait des troupes rwandaises et ougandaises avant même que la Libye de la fameuse présence des FDLR n'ait été finalisée. La communauté internationale sait que cet alibi-là ne pourra jamais aboutir à une fin pour qu'elle soit le préalable au retrait des troupes rwandaises. L'important ici, c'est que, comme William Swing l'avait fait, disais-je, qu'on privilégie la création des conditions politiques favorables, et donc la décrispation, la cohésion nationale, et je pense que le nouveau chef de la MONUSCO dispose des leviers importants. Le régime en place, s'il se permet de relancer aujourd'hui les débats autour de la révision de la Constitution, c'est parce qu'il estime qu'il a l'aval des États-Unis et donc de James Swan. Étant donné que pour ce régime, Washington c'est une idole, le nouveau patron peut user de cela pour demander au régime à Kinshasa d'abandonner son arrogance, mais également Kigali d'abandonner cette prétention-là, à ceux qui sont à Kinshasa, à Goma, de cesser d'être les esclaves de la fameuse définition des causes profondes selon le Rwanda, mais plutôt que les causes profondes soient définies selon les Congolais à travers un dialogue national inclusif. De cette manière, le nouveau chef aura contribué à la création des conditions institutionnelles internes qui nous permettent de sortir de la situation d'un État failli. Mais nous ne serons pas tout à l'entrée de la MONUSCO et comme je le disais, des expériences passées montrent que même lorsque la MONUSCO nous a aidé militairement, d'autres partenaires l'ont fait, Artemis et autres, les dirigeants congolais ont transformé la victoire en défaite. Et donc nous n'allons pas attendre que la MONUSCO, même avec le contexte financier actuel, fasse ce que nous devons faire. Mais si elle peut nous aider à recouvrer la cohésion nationale, l'harmonie institutionnelle, eh bien, je pense que nous pouvons nous en sortir.
Voilà, et avec sa connaissance, n'est-ce pas, de la vie politique en RDC et son expérience diplomatique dans la gestion des conflits, n'est-ce pas, des atouts qui peuvent, n'est-ce pas, permettre à James Swan de bien accomplir sa mission.
Tout à fait. Donc, il a ses pronostics favorables. Personnellement, dans le cas de notre parti politique, pour ce qui est de Marthe Fayoulou, qui témoignait dernièrement, c'est qu'il a connu de James Swan comme ambassadeur, c'est qu'il connaît de lui comme chef de la mission dans d'autres pays, eh bien, il nous témoignait que lui estime que la présence de ce nouveau chef de la MONUSCO est une chance pour notre pays à cette période critique. Mais comme je l'ai dit, cela exige du nouveau chef de la MONUSCO du courage. Courage pour ne pas tomber dans le piège de s'accommoder dans une certaine camaraderie avec les dirigeants en place pour que ceux-ci ne lui mettent pas les bateaux dans les roues, mais je pense qu'ils sont dans une situation telle que on ne doit pas les amadouer, mais également éviter de s'accommoder à une acceptation par ceux qui sont à Goma pour lui permettre d'accéder aux zones sous occupation. Non, ils sont auteurs de graves violations des droits de l'homme, parmi les responsabilités du nouveau chef huissier, il y a notamment la mise en œuvre de la résolution 2673 que le Conseil de sécurité a adoptée après l'évasion de Goma et Bukavu par les Rwandais accompagnée de graves violations des droits de l'homme. On ne peut pas accepter qu'une résolution obtenue par le, suite au sang versé des Congolais reste une lettre morte.
Merci.
Et nous allons apporter le maximum de tout ce que nous pouvons à chaque force politique de l'opposition au nouveau chef pour qu'il réussisse sa mission.
Merci Frédéric Amani. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo.
Vincent Bolao, depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo, les propos des nouveaux représentants spéciaux du secrétaire des Nations Unies et les chefs de la MONUSCO sont les bienvenus. Comme t'a souhaité par lui qu'il n'existe pas de solution et excuse-moi militeur à la crise spéciale dans l'est du pays, les attentes de la population et la majorité, la classe politique et toutes les forces de la nation après l'arrivée du nouveau chef de la MONUSCO en RDC se focalise sur la mise en œuvre du dialogue national initié par la CECO et l'SCC. La mise en œuvre de ces assises donnera plus de la place et confiance de la MONUSCO dans la pacification et la stabilité de la RDC. Les contre seraient une présence sans effet.
Frédéric Amani.
Bien, je crois, je salue la réaction de l'auditeur de Kisangani, monsieur Vincent. Effectivement, je crois que le nouveau patron de la MONUSCO doit mettre en place un cadre de concertation entre la MONUSCO et les gouvernements, mais aussi il va pousser à ce que les gouvernements et l'opposition et les civils se mettent autour d'une table parce que il a dit, il n'y a pas de solution uniquement militaire à la crise. Il faut aussi un dialogue, il faut des solutions politiques. Il est vrai qu'il faut reconnaître que la crise à l'Est, elle est polycentrique, une crise, pour reprendre l'expression d'Edgar Morin. Mais face à ça, il faut aussi des polysolutions. Mais je pense parmi les polysolutions, il est important de réfléchir sur une stratégie adaptable plutôt que des solutions isolées. Face à cette crise multiple, il faut des solutions non isolées, mais des solutions globales et des solutions internes aussi peuvent contribuer à la résolution de cette crise. Les dialogues et les bienvenus entre les acteurs, mais aussi on peut compter sur son expérience et sur ses compétences pour que, n'est-ce pas, la paix et la sécurité reviennent et surtout les climats de confiance entre les acteurs politiques au niveau national puissent se mettre en place pour contribuer à l'avènement d'une paix durable.
Merci. Au-delà, honorable Kaline Zanzoukasevita, au-delà de l'appui à la désescalade, quelle pourrait être la place de la MONUSCO, n'est-ce pas, dans la pacification et la stabilisation de la RDC?
La MONUSCO a des atouts, plusieurs atouts d'ailleurs, pour que la paix revienne en RDC. C'est la raison pour laquelle, d'abord, nous pourrions recommander que le nouveau chef puisse effectivement travailler résolument pour que la résolution 2808 puisse être effective. Il faut que toutes les parties au conflit puissent travailler pour que la paix revienne à l'Est de la République démocratique du Congo. Mais comme vous le savez, aujourd'hui, nous avions parlé du soutien de la MONUSCO à la protection civile. Il y a beaucoup de gens qui souffrent à l'Est de la République démocratique du Congo. Nous souhaiterions que le nouveau chef s'engage aussi à travailler avec d'autres partenaires internationaux pour que les couloirs humanitaires soient ouverts à Goma et à Bukavu pour permettre qu'il y ait une connectivité et la population qui est là est la nôtre et au plus haut niveau de notre pays, de notre politique. Moi, je pense que c'est nous qui avons besoin que la paix puisse arriver le plus tôt possible. C'est la raison pour laquelle le nouveau chef aura le soutien de la classe politique de la majorité dans ses missions d'accompagner la République démocratique du Congo à recouvrer la paix. Comme vous le savez, la MONUSCO a un mandat d'abord d'accompagner la République démocratique du Congo. Ici, ce n'est pas question de la classe politique de la majorité, de l'opposition, ni de ceux qui ont pris les armes contre la République. Ici, c'est d'abord le pays. nous parlons pays et la MONUSCO est venue nous accompagner. Je souhaite que effectivement, dans le cadre de sa mission, que la MONUSCO puisse améliorer sensiblement sa communication, parce que on a besoin effectivement de la confiance pour que les acteurs sociaux, politiques et de la société civile puissent accompagner les actions de la MONUSCO.
Voilà, parce que nous sommes à la fin de l'émission, c'est quoi votre mot de la fin?
Je souhaiterais effectivement que pour le mandat de la MONUSCO aujourd'hui, que la méthodologie puisse changer. J'ai toujours moi-même constaté que la MONUSCO a des potentialités, mais dans les zones en conflit, surtout au Nord Kivu, surtout en Ituri, il y a quand même un laxisme latent dans le cadre des opérations militaires. Aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur cette question parce qu'on est à la fin, mais je ne vois plus la MONUSCO, surtout au Nord Kivu, coordonner des actions militaires régulièrement avec les FARDC. Et donc, nous souhaiterions qu'à partir de ces nouveaux élans, que la population du Nord Kivu puisse constater qu'elle est accompagnée par la MONUSCO aussi.
Merci Jean-Baptiste Mouindo Katekwa. Au-delà du cessez-le-feu, n'est-ce pas, qui doit être appuyé, qui doit être souhaité, c'est quoi l'apport de la MONUSCO dans la pacification et la stabilisation de la RDC?
L'apport de la MONUSCO consiste à user de ses beaux offices pour que très très rapidement un dialogue inclusif soit tenu le plus rapidement possible. Toute la classe politique parle de dialogue. Même le premier draft de Doha à son article 14, le draft du 1er août 2025, disait qu'un dialogue devait être tenu à 2026. Félix lui-même parle de dialogue, mais en même temps pose des conditionnalités qui mettent à mal l'inclusivité. Ceux qui sont à Goma, pareil. Donc, la première mission de la MONUSCO dans le contexte actuel et compte tenu de ses moyens limités, consiste à user des leviers diplomatiques pour que ces dialogues se tiennent. Deuxièmement, concentrer ses forces, ses troupes dans des zones sous occupation, notamment à Goma, à Sake, à Bukavu, à Rutshuru, Lubero, dans le Walungu, Kalehe, pour superviser la situation des droits de l'homme, pour que ces gens-là ne se sentent pas tout permis à opprimer les populations. Ensuite, disais-je, dans les zones sous contrôle du gouvernement, que le nouveau chef de la MONUSCO prenne son courage à main pour aussi, assurer aussi la protection des populations. On ne devait pas demander ça au chef de la MONUSCO, mais désolé de constater que le gouvernement qui devait assurer la protection des droits de l'homme, de sa population, le gouvernement est lui-même bourreau des droits des populations. Et enfin, je voudrais demander que les populations qui sont dans des zones sous occupation de UPDF ne tombent pas dans le piège de voir que certains acteurs dressent la population contre la MONUSCO. Nous avons aujourd'hui besoin du rôle de la MONUSCO pour nous aider à recouvrer l'intégrité territoriale. Il faudrait que dans les mémorandums de collaboration entre FARDC et UPDF, le gouvernement assure l'effectivité du fonctionnement du tripartite pour qu'avec le nouveau chef de la MONUSCO participe au déroulement des opérations en Ituri pour éviter toute surprise désagréable.
Merci.
Parce que on ne sait jamais ce qui s'est passé sous les opérations conjointes des 97 et autres peuvent nous arriver, mais avec la présence d'un témoin comme celui-là, nous pouvons nous assurer que tous les partenaires travaillent à la préservation de l'intégrité territoriale de notre pays.
Merci Frédéric Amani, votre mot de la fin.
Il est vrai qu'il faut préciser que la MONUSCO ne se substituera pas au gouvernement congolais. Il faut faire la part des choses. Et la MONUSCO vient accompagner le gouvernement congolais. Il y a un rôle que le gouvernement doit jouer et la MONUSCO va compléter. Ça, c'est de un. De deux, nous pensons que la MONUSCO va travailler pour l'intérêt général des Congolais et non se mettre du côté des uns contre les autres. Enfin, nous souhaitons bonne chance au nouveau chef de la MONUSCO et nous voulons qu'il imprime une dynamique qui va permettre à ce que la MONUSCO travaille pour répondre à la résolution qui y a, n'est-ce pas, qui a été votée pour son renouvellement des mandats. Et nous avons besoin de la paix et de la sécurité en RDC pour le développement avance.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Kaline Zanzou Kassivita, Jean-Baptiste Mouino Kassekwa et Frédéric Mani. Merci aussi aux auditeurs qui sont intervenus dans cette émission. Mais aussi merci à Benjamin Moudoumbi qui l'a réalisé et à Dieudonné Nyangasa qui était à la technique et Pierre Diassinois qui a assuré les lives de cette émission. À la présentation, Guy Maté, merci une fois de plus et bonne suite des programmes sur Radio Capi.